On va continuer, deuxième partie du cours sur les tefilin. Juste pour récapituler, on avait vu que les tefilin, c'était fait à partir de peau de bête. Il fallait que cette bête, ça on l'a pas mentionné hier, mais que c'est obligé que ça soit une bête qui soit kasher, kshera. C'est-à-dire, elle peut être ne pas avoir subi la shrita. C'est pour ça qu'on peut faire venir des peaux de bêtes des États-Unis, même qu'ils ont que cette peau a été achetée des goyim. Mais il faut que ça soit d'un animal kasher. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre de la girafe qui a été mangée en Afrique et faire avec ça de la peau de tefilin. Ou je ne peux pas prendre l'hippopotame qui a une peau assez grosse, assez épaisse, qui est costaud, pour faire avec ça peau de tefilin. Il faut automatiquement que ça soit de la peau d'animal kasher, même s'il n'a pas subi la shrita. On a vu qu'il y avait 5 ou 6 étapes au niveau des tefilin. On avait parlé, juste pour recommencer, il y a la première étape où d'une peau en forme de T, on donne cette forme-là. On voit que la peau, elle s'est plissée parce qu'elle était assez grande et on l'a pressée de deux côtés, ce qui nous a donné cette forme-là. Après avoir fait cette forme-là, on fait rentrer dans chaque compartiment une sorte de rectangle en fer pour lui donner la forme de carré. Et on obtient cette forme-là qui est encore ouverte. On voit bien chaque compartiment de l'extérieur, de l'intérieur. C'est du cuir. La même chose à l'intérieur. On voit bien qu'à l'intérieur, c'est 4 compartiments séparés. Ok ? Où on va rentrer à l'intérieur les 4 parachutes. Une fois qu'on a fait cette deuxième étape, on fait la troisième étape. On presse plus pour arriver à un carré. Et cinquième étape, on fait sortir un shin. Ok ? On a dit qu'il fallait faire attention que dans cette peau-là, même à l'état brut, ok, ou la première partie, il fallait faire attention que dans la peau, en la travaillant, de faire aucun trou, ni sur le dessus, ni sur le côté, ni sur le dessous. Donc ça, c'est très, 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 très important de faire aucun trou. C'est-à-dire, c'est pas nous, mais le Mif'al. Alors, il y a des Mif'alim qui veulent gagner de l'argent. Il y a des sociétés, des usines de tefilin qui font pas très attention à ça. C'est pour ça qu'il faut prendre une usine de tefilin avec un plombage. C'est quoi un plombage? Quand vous allez acheter de la viande cachère, vous allez acheter à manger, vous faites attention qu'il y a une théoda au niveau de la cache-route. C'est la même chose. Il faut faire attention qu'il y a un mâche-guillard dans cette tefilin-là. En général, il y a des tefilin avec un tampon, un mâche-guillard, et qui nous approuve qu'il était là depuis le début à la fin, qu'il a fait attention dans chaque paire, qu'il n'y a pas de trou, qu'il n'y a pas de problème au niveau ilhatique. On avait dit que il fallait que les tefilin à la Halle Moshe Mishina, il soit paru d'Ada Tefer. C'est quoi paru d'Ada Tefer? C'est-à-dire qu'il soit séparé bien jusqu'en bas. Et quand je le fais, quand je presse pour faire mon carré, c'est pas serré, c'est pas attaché avec de la colle en bas. Sauf certains zougs de tefilin, certaines paires de tefilin, où c'est pas ça veut pas dire que c'est pas de la bonne qualité, mais que, étant donné que la peau a été assez dure, ou on a eu du mal à travailler, ou on n'a pas les ustensiles qu'il faut. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre un point de colle en bas qui ne dépasse pas le milieu du tefilin. Donc, vous aurez une paire de tefilin qui soit fermée. Ce qui peut se passer, que je ne vous ai pas dit hier, souvent, au moment de la fabrication, c'est possible que le fer qu'on a rentré à l'intérieur pour faire la presse ou le compartiment, il s'est tordu ou s'est fait d'une façon tordue. Ce qu'ils font pour maquiller la chose, c'est que quand on arrive à cette étape-là, la dernière étape, vous voyez, là, c'est fermé, on peut même pas ouvrir. Dans les tefilin qui sont paru d'Ada Tefer, c'est-à-dire qui sont bien séparés jusqu'en bas, si j'applique un lachat, une pression, je pourrais voir que mes tefilin, ils se séparent très légèrement, ils reviendront. C'est comme un ressort. Parce que la pression qui a été mise au début, elle est très forte. On les a laissés sécher de cette façon-là, donc ça revient. Mais il y a des tefilin que même si vous mettez la plus grande pression, alors ça se déchirera. Alors ça, il faut faire attention de deux choses. Que les compartiments, vous voyez, on voit la peinture, on voit bien qu'il y a des compartiments. Si je prends un couteau, une lame, et que je passe, des fois, on va voir que le compartiment, au lieu d'être droit, il est comme ça. Hop, il est oblique. Alors là, c'est pas bon. Il faut que la peinture qui soit dessus, elle soit de la même forme que la forme du compartiment, même si c'est pas droit. Alors en général, dans les tefilines de bon marché, ils font pas attention à ça, ils vous font la peinture. Une fois que c'est bien peint, lisse de tous les côtés, ils viennent avec une petite lame et ils vont faire un beau dessin de droiture, mais c'est pas bon. Donc, quatrième étape, cinquième étape, on ferme le tefilin parce que ça va sécher pour qu'il prenne cette forme-là de carré. On a dit qu'il fallait qu'il soit important d'être carré là, carré là et carré sur le dessus. À partir du moment où on a vu une paire de tefillines il n'y a pas longtemps, on m'a apporté une paire de tefillines il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui habite dans les îles. Ok, il fait très chaud, très humide, les tefillines, ils sont ouvertes. Les tefillines, ici, elles sont fait une sorte d'éventail. Pas beaucoup, mais ça ne rentre pas sous les tefillines. Pourquoi ? Parce que là, je vais avoir 3,5 cm, là, je vais avoir 3 cm. Ils ont perdu le riboua, ce qu'on appelle. Ils ont perdu leur carré. Et donc, ce n'est pas bon au niveau de la halakha. Halakha de Moshe Misinaï, ça a aussi le carré. On va rentrer aujourd'hui dans d'autres lois qui concernent les tefillines, mais l'intérieur, la pnimiyut, ce qui est l'intérieur du tefillin. Alors, une fois, donc ça, tout ça, ce n'est pas fait par le sofer. Toutes les bâtiments, toutes ces maisonnettes, toutes ces tefillines-là, ces boîtiers-là, ne sont pas faits par le sofer. Ça, ce n'est pas un sofer qui fait ça. C'est un travail bifnei atzmo. C'est un travail d'une personne, d'un artisan autre que le sofer. Il y a des mif'alim, il y a des usines de tefillines ou des gens qui le font tout seul avec certaines machines. Tout est fait à la main. Certaines choses qu'on peut utiliser électriques, mais en général, tout est fait à la main à base de presse-main ou presse au pied. Sauf pour couper, alors on a le droit d'utiliser une scie électrique pour bien couper, que ça soit bien droit. Il faut savoir que les tefillines qu'on a aujourd'hui, elles sont beaucoup au niveau de la peau, ok, pas au niveau des parachutes, mais au niveau de la peau, elles sont beaucoup plus kshérotes, plus méoudarotes que les tefillines il y a 50, 100 ans, ok, ou plus. On avait dit que dans le roche, tiens-moi ça comme ça, on a vu que dans le roche, il y avait 4 parachutes. 1, 2, 3, 4. Ve'aya, Shema, Ve'aya Kiaviacha, Kadesh Likol Bechor. La parachiote, on a vu que c'était une parachia qui était longue ou courte, selon la parachia. Sa Shema Israël, c'est la plus courte. Compli de la fin au début. Et qu'on recouvrait deux fois, à deux reprises. Une fois avec des séarot, des poils de bête. Et une autre fois avec un morceau de peau, et une autre fois avec des sarrotes de bête. On la prend et on la met, donc ça c'est schéma, elle vient dans la troisième parachia. Il y a un ordre aussi de la rentrée. D'abord on rentre vers Aya et après schéma. Rabbeinu Tam, il inverse. Les tefillines, il y a des tefillines qu'on appelle les tefillines de Rabbeinu Tam. La première partie c'est la même chose, deuxième partie c'est la même chose, troisième, quatrième partie c'est la même chose mais inversée. Au lieu de mettre schéma dans le troisième compartiment, on mettra schéma dans le quatrième compartiment et Ve'aya avant. C'est une machloket dans la maseret, comment comprendre la maseret schéma dans la maseret minachot. Rabbeinu Tam, il est cholek sur Rashi. Rashi là-bas, vous savez que Rashi c'est le grand-père de Rabbeinu Tam. Rashi, il n'a pas eu le mérite d'avoir des garçons, il a eu que des filles. Et c'est de chaque fille qui est sortie de Rashi, ils ont eu des grandes sadikim. D'où, dans la Gemara, des petits-fils de Rashi, les Tosfot. Tosfot, vous étudiez quand vous étudiez la Gemara, Tosfot, c'est les petits-fils de Rashi. Rabbeinu Tam, c'est un des balais à Tosfot et c'est un des petits-fils de Rashi. Quand Rashi étudiait la Torah, il prenait Rabbeinu Tam des fois sur ses genoux. Et une fois, Rabbeinu Tam lui a attrapé les tefillines à Rashi, il lui a arraché comme ça de la tête. Rashi a dit comme ça, je sais que lui va être relègue sur moi, je sais que lui il va être pas d'accord avec moi sur le comment j'ai été possé, comment j'ai tranché au niveau de la halakha pour les tefillines. Alors ça change l'ordre, il y a un ordre. De la même façon, on va voir que ces parachutes là, ok, ça c'est fait à partir le sofer, c'est le sofer. À partir maintenant, tout ce que je vais vous dire en général c'est le sofer, sauf les lanières qu'on met, lanières du bras, lanières de la tête. C'est aussi la personne qui fait en général les bâtiments qui fait aussi les lanières. Le sofer, il achète des parchemins de cette grandeur-là, ou plus grand, pour écrire. Ou pour le yad, ce qui concerne la main, c'est un grand parchemin qui rassemble les 4 parachiotes. Ok ? C'est un grand parchemin écrit sur 7 lignes, et pas 4 lignes comme dans la tête, où il y a Kadesh, Ve'aya Kiavera, Shema Israël, Ve'aya Mshamoa. Conci, de la même façon, de la même, chaque chose de Kdusha, comme la mezouza, les tefillines, la megillah, le sefer Torah en général, on mégalgel, on l'enroule de la fin au début. Ok ? Pour plusieurs raisons. Le sofer, en général, c'est les sfaradim, il commence toujours à écrire les tefillines du roche. Chez les ashkenazim, on commence par les tefillines de la main. Comme ça, Machloket dans Siman Lamed Bet, au début, chapitre 32 dans le Shulchan Aruch HaChaim. Machloket entre Ashkenazim et Faradim. D'après le Harizal, nous, les Sfaradim, on va beaucoup d'après le Harizal. On écrit les tefillines du Rosh en premier. Alors, un sofer qui aurait écrit les tefillines de Shema en premier, c'est-à-dire la paracha de Shema, c'est pas kasher. Encore une fois, on rend un problème qu'on ne peut pas savoir. le sofer doit aller d'après l'ordre de rangement des parachiotes dans le boîtier. La première parachia dans la première maisonnette, en première partie, dans la première chambre, c'est Kadesh Likol Bechor. Donc le sofer, il doit commencer par Kadesh Likol Bechor. Il a écrit Kadesh Likol Bechor, après il a écrit Vaya Ki Aviacha, après il a écrit Shema Israël, et après il a écrit Vaya Em Shamoa. Il donne tout ça à vérifier, à un magia. En général, c'est vérifié par un homme et c'est vérifié par un ordinateur. On aurait trouvé que dans la troisième parachia, il y a un problème, il manque une lettre ou il y a un psoul. Ok ? C'est-à-dire quoi ? Qu'il a oublié une lettre ou qu'il n'a pas été mekadesh le nom de Dieu. Il se rappelle qu'il n'a pas sanctifié le nom de Dieu quand il a écrit. Alors, il y a, comme on a dit, il y a des choses qu'on peut, pas savoir, même après vérification. C'est quoi ? Quand je n'ai pas écrit dans l'ordre, c'est-à-dire si je n'ai pas écrit du début à la fin de la paracha, j'ai écrit d'abord Shema, et après j'ai trouvé chez un ami la paracha de Veaya, après j'ai trouvé chez un autre sofer truc, ça n'a pas été écrit dans l'ordre chronologique. Je les ai mis, je ne peux pas savoir. Je peux voir plus ou moins que ce n'est pas le même sofer, mais je ne peux pas savoir que ça n'a pas été écrit dans l'ordre. C'est pour ça que certains sofrim, derrière la paracha, ils marquent au stylo, au crayon, la date où ils ont écrit leur paracha. Pourquoi ? Parce que dans un cas où je donne mes filines à vérifier, et je les ai laissées au soleil, ou je les ai fait tomber dans l'eau, ok, ce n'est pas des waterproof, je les ai fait tomber dans l'eau, et j'ai une paracha qui est rendue pas soule. Quand la troisième paracha, elle est rendue pas soule, elle rend automatiquement pas soule tout ce qui est avant. Même si ils ont été écrits Bekshirut. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça soit Kessidran. Il faut que ça soit écrit dans l'ordre. Si maintenant la troisième paracha, elle n'est pas bonne, je ne peux pas écrire une autre troisième paracha et venir la changer. Pourquoi ? Parce que cette paracha d'avant et les deux parachas d'avant, ils auront été écrits. Ils auraient été écrits avant. Donc ça veut dire que quoi ? C'est que la troisième paracha, pardon, je me suis trompé, la troisième paracha, elle ne rend pas soul ce qu'il y a après. Ok ? Parce qu'elle a été écrite avant. Non. Elle a été écrite après.
Si on la refait, sera écrite après les dernières.
Il faut que ça soit comme ça, les quatre parachutes. D'un ordre chronologique, c'est la première, c'est la deuxième, troisième, quatrième. Maintenant, si celle-là, elle a été écrite en dernier. Ouais, donc je possède celle-là. Si celle-là, elle a été écrite en dernier, je possède la troisième et la quatrième. La même chose, si celle-là, elle était, c'est la première. Le plus grave, c'est que la première, elle soit pas soule. Et j'en aurais écrit une autre. Les trois, je suis obligé de les changer. C'est-à-dire, je suis obligé de réécrire toutes les tefilines. Au niveau de la main, c'est encore plus problématique. Pourquoi ? Parce que là, c'est d'un seul rouleau. Ok ? Donc, si la première, elle était pas soule, c'est pas grave. Je coupe, je recolle et j'écris. C'est pas le top, mais c'est cacher quand même les khatri là. Mais si, par exemple, c'est la troisième, la même chose, c'est très bien. Mais si c'est la deuxième ou la troisième, on est obligé de faire du racolage. Donc, en général, dans le yatz qui se passe, à moins qu'on fasse un collage, on est obligé de réécrire. Si c'est la deuxième qui a été pas soule, je l'aurais écrit, je suis obligé d'écrire la deuxième, troisième, quatrième. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Et on ne peut pas le savoir si le sofer, il n'est pas Ireshamaim. Un sofer, avant d'écrire le nom de Dieu, comme je vous ai dit hier, ou avant d'écrire le tfilin, il doit dire comme ça. Avant d'écrire, là, le tfilin, il est blanc, propre. Areni, Kotev, Leshem, Kedusha, Tfilin. Quand il arrive au nom de Dieu, il dit Areni, Kotev, Leshem, Kedusha, Tashem. J'écris pour la Kedusha du Saint. Chaque fois qu'il écrit le nom de Dieu, il l'a pas dit, les tfilin sont psoulot. Et je ne peux pas le savoir. Donc c'est pour ça, comme j'ai dit à certains élèves, ils m'ont dit, alors quoi, je ne peux pas savoir si mes tefillines sont chez Roth ou pas. Si tu achètes chez quelqu'un qui est Rechamaim, qu'il ne va pas faire du business de ça. Ça veut dire que c'est un business, c'est son travail, il va gagner sa vie avec ça. Mais il ne va pas se permettre de vendre quelque chose de pas soul pour pouvoir gagner encore 100 ou 200 ou 300 euros de plus.
Une question. Si quelqu'un, il a écrit avec l'intention de faire des tefillines de Rashi et il a écrit dans l'ordre de Rabbi Noudam.
Les tefillines de hors de Rachid Rabbein Tam, c'est la même chose, sauf dans la main. Sauf qu'à la fin, on les range différemment dans le roche et dans la main. Hein, dans la main, au lieu d'avoir. Dans la main, tu peux le voir tout de suite. Dans la main, hein, au lieu d'avoir Veaya qui avait Veaya Im Shamoa à la fin, on aura Shema à la fin et Veaya Im Shamoa ici.
Ah, ça, je veux dire, si par exemple dans la tête, il avait l'intention de faire ceux de Rachid, et quand il les a écrits, il les a écrits dans l'ordre de Rabbein Tam quand on les range.
J'ai pas compris ta question.
Vous avez dit qu'il y a un ordre.
Il y a un ordre de rangement d'après Rashi ou d'après Rabbi Notam.
Il faut les écrire selon l'ordre de rangement.
Il faut les écrire selon l'ordre du rangement. Ça ne change pas même de Rashi, même d'après Rabbi Notam. Même d'après Rashi, tu écris Veaya Kadesh, Veaya Kiaviacha, Même d'après Rabbi Nathan, tu écris Shema en troisième. C'est de la même façon qu'ils sont apportés dans la Torah. Et après, c'est seulement l'homme de rangement, l'ordre de rangement dans le film du Roche qui change. T'as compris? Donc c'est pas un problème d'écriture là. C'est un problème de rangement. Dans le Yad, c'est un problème d'écriture.
Alors si maintenant il y a le troisième, je sais que dans deux termes qui est pas
c'est Vaya Im Shamoa.
Alors c'est qui?
Non, je peux l'écrire quand même, puisque d'après Rabbi Nathan, je l'écris en dernier, Vaya Im Shamoa. Donc j'ai plus de problème, il n'y a pas quelque chose que je devrais écrire après.
Donc c'est pas les mêmes problèmes qu'avec Rashi, que si c'est pas sous, le troisième pas sous, faut que je réécrive la quatrième.
Puisque dans si, c'est le même problème, puisque chez Rabbeinu Tam, j'ai Vaya Im Shamoa ici. Et là j'ai Shema. D'après Rashi ou d'après Rabbeinu Tam, même qui sont inversés d'après Rabbeinu Tam, ils ont été écrits dans l'ordre de Shema et Vaya. Donc même quand si le Vaya de Rabbeinu Tam, il est pas sous, je peux le réécrire après, puisqu'en tout, de toute façon, je l'écris après. Voilà.
Si j'ai des définis de Rabbein Outam et c'est le quatrième compartiment qui n'est pas sous, il faut que je réécris le 3 et le 4.
Oui, exactement, puisque c'est schéma Israël. Bien fait, oui.
Pourquoi on est obligé de les lire alors? S'ils sont déjà sous, on les a déjà, ces passages-là.
Justement, pour renforcer quand, c'est que tout ça, c'est la base de la Torah, c'est la base de la Emouna, la base de la foi. Il y a des choses que Akadosh Baruch Hu, il nous rapporte toujours, 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 toujours dans la Torah. Dans le Kiddush, on voit Yetziat Misraim. Dans la prière, Yetziat Misraim. Dans le Shema, Yetziat Misraim. Dans la prière du matin, Yetziat Misraim. On voit qu'il y a plusieurs endroits où Akadosh Baruch Hu, il rapporte les Yetziat Misraim. Yetziat Misraim, la sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif. C'est la naissance du peuple juif. La Gemara pose la question en Brachot. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les tefillines d'Akadosh Baruch Hu? Alors la Gemara dit quoi? Akadosh Baruch Hu, il porte des tefillines. Alors il dit oui. En kamocha Israël, il n'y a pas comme toi quand Israël. Ça veut dire que nous, en vérité, nous on est Meshabed. On c'est comme une alliance qu'on fait avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme un mariage. Quand on rentre sous la choupa, on a des obligations vis-à-vis de la femme, et quand elle rentre sous la choupa, elle a des obligations vis-à-vis de son mari. Nous, les tefillines, ces obligations. Et ces obligations, en général, il y a des chatanim. À part le soir de la choupa qu'ils ont écrit, qu'ils ont signé la ktouba, elle passe aux oubliettes, la ktouba. La ktouba, après tu apprends les halachot Ebenezer, tu apprends halachot Nida, tu apprends certains halachot, tu reviens sur ces halachot, tu apprends le lien de Shalom Bayit, tu reviens, pourquoi tu apprends? Arrête, je me suis marié, ça y est, c'est ma femme, et qu'est-ce que tu veux que j'apprenne encore? Non, tu apprends pour renforcer le lien que tu as avec ta femme. Un lien de Gdusha, de Tahara, un lien que tu renforces ce lien avec la même chose, on renforce ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc chaque jour on relie. Qu'est-ce qui nous lie avec Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui nous rapproche avec Akadosh Baruch Hu?
Pourquoi il n'y aurait pas toute la tefila dedans?
Parce que si tu avais toute la tefila, tu n'auras pas une petite boîte comme ça, tu aurais une boîte comme ça sur ta tête. Ok? Donc si ça avait été la tefila. Mais non, il y a ce qui est, comme tout le temps, je vous ai dit, rappelle-toi ce que je vous avais dit il y a quelques cours, Yichot Brachot, je dis que c'est la même chose pour tout. Il y a Ikar Vetafel, essentiel et secondaire. Il y a les choses qui sont essentielles, je suis obligé de les mettre en premier lieu. Les choses qui sont secondaires, ils sont Nigra Racharav, ils vont après. Donc ça, c'est l'essentiel, c'est la base du Ham Israël. Comment on est né, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, et c'est quoi le mitzvot essentiel. Donc Kadosh Baruch Hu, il a été mis à Red Otanu avec ça. Il nous a sanctifié ou lié à lui avec grâce à ces choses-là. Donc parachiot du Yad, du Roche, pardon. Quatre parachiotes qu'on rentre dans le compartiment. Après avoir mis les parachiotes dans le compartiment, on a le téléphéline du Yad. Téléphéline du Yad, on a dit, c'est une grande paracha. Là, c'est pour un sofer qui est plus. C'est plus galère. Pourquoi? Parce que si la première paracha n'est pas bonne, il est obligé de réécrire. Il faut savoir. Pardon?
Il doit adapter son écriture, parce que là, il doit adapter sur cette ligne.
Et ouais, là, il doit adapter son écriture et sa plume par rapport à la grosseur de l'écriture. Maintenant, un sofer qui manquerait, on a donné Philine à vérifier, et il manquerait une lettre dans la première. Il manquerait une lettre dans la première paracha. Ça, c'est cachère, ça, c'est cachère, ça, c'est cachère. Deux possibilités. Ou de trouver un autre sofer qui a écrit cette paracha-là avant que lui l'a écrit, donc d'après la date où il a écrit, et il pourra couper, coller. D'après certains poskim, c'est pas. Ça veut dire qu'il faut avertir le kone, il faut avertir la personne qui nous achète, mais ça considéré comme des tefillin kasher les khatrila. Un sofer qui est Yirei Shamayim, voilà, donc rentre dans le cas de Yirei Shamayim, un sofer qui ne va pas avoir peur de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va effacer, il va réécrire, on peut effacer sans qu'on voie, et il va vous vendre les tefillines à un prix. Vous, tous les jours où vous aurez fait la bracha, Bracha Levatala. Pourquoi? Parce que ce n'est pas été écrit Kessidran. Un sofer qui irait Shamaim, il coupera, il vous dira. Et un sofer qui est encore plus, la Irat Hashem, il dit prends, je prends tout ça, je mets à la Gniza, ou je coupe, je donne à quelqu'un qui aura besoin peut-être de ces trois parachiotes, et d'écrire après à nouveau les quatre parachiotes. Merci. Donc ça, il faut faire attention. Il faut faire attention chez qui on achète les tefillin. C'est quelque chose qui est important et qu'on peut pas être mésalzel. Il y a des gens, comme il y a quelqu'un qui m'a demandé des mezouzot de France. Combien la mezouza? 250 shekels. Ok, stop, je donne un exemple. 250 shekels. Ah, 250 shekels, c'est un peu cher tout ça. Bon, je suis obligé, c'est pas pour moi, je suis obligé d'attendre la personne. Là, elle est à Elat, à l'hôtel pour une semaine. Et là, tu as l'hôtel pour une semaine, minimum 1 500 €. Ok? Sans compter les dépenses, les habits, les trucs, machin. Tu vas acheter, tu vas au restaurant une fois, ça coûte en France 40 ou 50 €. Tu es prêt à mettre 50 € pour bien manger, pour bien tenir. Quelque chose qui va garder ta maison, qui est écrit, pas par moi spécialement, mais qui est écrit par un sofer Erech Shamaim, mais quelqu'un qui fait attention et qui. C'est ça la Shmira de la maison. C'est ça qui garde notre maison. Alors, on est. Ah non, bon, là, ça c'est on est mézalzel, on fait pas attention, on dédienne cette mitzvah-là. Ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Il y a des élèves ici, je crois que c'est toi hier, qui m'a dit qu'il a acheté des tefillin à 600 € chez quelqu'un qui, pas forcément qui connaissait, il les a donnés à vérifier. À l'intérieur, au lieu d'avoir du parchemin, il avait du papier journal. Ok? Donc ça, faut faire attention. Moi, je connais des gens qui avaient du carton à l'intérieur, des gens qui m'ont appelé de France, ils ont acheté leur tefillin ici. Il y a des gens qui sont pas honnêtes, ils voient que c'est un bon business, on peut gagner de l'argent. Et alors, ça commence à bientôt, on va voir des tefillin made in China. Ouais, des tefillin made in, qui viennent de Chine, moins cher, ok? Ça, c'est pas cachère. Pourquoi? Baruch HaShem, c'est quelque chose qu'il faut que ce soit fait à la main, écrit à la main, par un sofer HaShamayim, qu'il soit Mekadesh, qui à chaque fois qu'il écrit quelque chose, qu'il dise. S'il dit pas, c'est parfait. Les deux choses qu'il faut qu'il soit écrit dans un ordre, c'est les tefillin et la mezouza. La Megillah, le Sefer Torah, c'est pas être obligé d'écrire en ordre. On peut commencer par Achat Devarim et après écrire Barachat Bereshit. Oui, Eran.
C'est grave parce que. Le prix, c'est quand même important parce qu'il y a des gens, par exemple en France, ou moi j'en ai connu, qui avaient beaucoup de. Enfin, qui n'avaient pas forcément les moyens de remplacer. Dans ce cas-là, ils vont souvent chez les rabats parce que chez les rabats, ils commencent à faire des prix trop chers. Est-ce que c'est un problème pour un sfarad d'acheter chez les rabats ou quelqu'un qui n'est pas rabat du tout?
Ok, très très bonne question. Très très bonne question. Il y a une tchouva dans Yabi Omer et dans Yechaveda du Rav Ovadia Yosef. Zerher Tzadik Kadosh Livracha. Qu'au niveau des parachiotes, c'est la même chose. Le Ktav Ashkenazi, Ktav Sfaradi, il est différent. Par contre, il y a un problème que pour un Sfarad, il ne peut pas être acquitté avec des tefillin de Ashkenaz. Pourquoi? Il y a une divergence d'esprit entre le Rambam et le Rosh au niveau de l'Aktiva, au niveau de l'écriture. Il y a ce qu'on appelle dans la Torah des parachotes Ptuchot et des parachotes Stumot. Parachutes ouvertes et des parachutes fermées. C'est quoi parachutes ouvertes et fermées? Vous voyez des fois dans le Sefer Torah, alors c'est écrit en colonne, et des fois vous voyez un trou au milieu, dans un mot au début de la ligne et un mot à la fin de la ligne. Ou des fois vous avez des parachutes, ou des fois ça s'arrête au milieu de la ligne et ça s'arrête, il n'y a plus rien, et ça commence au début de la ligne. Ou des fois ça s'arrête au milieu de la ligne et ça commence pas au début de la ligne, ça commence au milieu de la ligne. Alors ça, c'est la Hagdara, c'est la définition de parachutes stumot ou ptuchot. Dans les tefillin de roche, même dans les tefillin du Yad, mais dans les tefillin du roche, c'est plus moukar, ça se voit plus. Voilà, ça c'est des tefillin. En général, d'après les Sfaradim, normalement, on devrait écrire, d'après le Beit Yosef, le Shulchan Aruch, on devrait écrire Ubish Arecha, il devrait arriver en fin de ligne. Et la paracha qui vient après, c'est Vayayim Shamoa, elle ne devrait pas commencer en début de ligne, commencer en milieu de ligne. On ne commence pas Vayayim Shamoa en début de ligne. Le prochain parchemin que je vais commencer, il ne commencera pas ici au début, et il y aura encore 3 lignes en dessous. Il commencera après 9 lettres, et en dessous, je commencerai au début de la ligne. Ça s'appelle paracha Stuma. Ok? D'après les Ashkenazim, le Taz, il donne une façon pour être acquitté des deux avis entre le Rosh et le Rambam. Comment faire? De laisser, comme il a fait ici le Sofer, un peu ici et de laisser un peu là-bas. Pour qu'on s'appelle comme, d'après le Rosh et d'après le Rambam Parashat Stuma. Mais d'après le Rambam, c'est pas bon. Pour lui, il s'appelle pas Parashat Stuma. Donc pour nous, un Sfarad, et comme ça ils écrivent les Ashkenazim, pour nous, un Sfarad qui mettrait des tefillin de tefillin d'un Ashkenaz, on n'est pas acquitté. Pourquoi? Parce que c'est pas écrit d'après le Rambam. Et le Shulchan Aruch, il a été possèque dans Siman Lamed Bet chapitre 32 là-bas, comme le Rambam. Donc il faut faire attention. Ça, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut faire attention. Au niveau de l'écriture, un Sfarad ou un Ashkenaz qui monte dans un Sefer Torah Sfarad ou Ashkenaz, il peut monter, il l'a quitté. Il n'y a pas ce problème-là. Mais dans les niveaux des Tfilin, étant donné qu'il y a une psika, le Shulchan Aruch était posé avec la halakha, donc il y a ce problème-là de parasha Ptucha ou parashat Stuma. Donc on avait dit qu'après on fermait. Quand on ferme les tefilines, on ne ferme pas les tefilines. Donc on a rentré les parachutes. C'est pas fermé avec du fil. C'est fermé aussi avec du guide, avec des tendons. Du fil qu'on a fait, une sorte de tendon comme ça, qui est fait à base d'animal, mais encore caché, et qu'on a cousu avec une aiguille, qu'on a fermé. Pour permettre que ça soit fermé et hermétique, il y a ce qu'on appelle la poudre de peau. Qu'on coupe la peau. Alors c'est comme de la sciure de bois, la sciure de peau. On prend une certaine colle qu'on met sur le bord et qu'on trempe dans la sciure de peau et qu'on ponce après pour donner cette apparence où c'est vraiment fermé hermétiquement et ça doit être comme ça. Si à partir du moment où les tefilines s'ouvrent un tout petit peu, si c'est pas trop, c'est pas grave. Par contre, si les tefilines ont commencé à gondoler, parce qu'il y a certaines personnes qui mettent les tefilines avec le gel le matin, ouais, ou en sortant de la douche, ok. Ça, c'est une des choses les meilleures pour rendre pas sous les tefilines. Au fur et à mesure du temps. Quand je mets les tefilines, c'est mouillé, c'est de la peau. La peau, quand vous restez, vous allez à la piscine, vous allez dans la douche, vous restez longtemps dans le bain, vous voyez que votre peau a commencé un peu à gondoler. C'est de la peau. La même chose, ça c'est de la peau. Si je la laisse trop longtemps sur une tête qui est mouillée ou que je la laisse trop longtemps dans un endroit qui est humide, ils vont commencer à gondoler. Si c'est encore plus longtemps, ça pénètre à l'intérieur. Quand c'est des tefilines pas de bonne qualité, ça peut rendre pas soul une parachia. Où on voit ça dans les mezouzotes qui sont à l'extérieur. Mezouzotes qui sont des gens qui habitent, ils ont mis une mezouza dans leur terrasse. Il y a le soleil, il y a la pluie, le soleil, la pluie. Donc le parchemin, des fois, il décalque. Ou le parchemin, des fois, il abîme. La pluie, pardon, ou le soleil, il abîme ces parchemins-là. Donc ça qu'il faut faire attention. Au niveau des lanières, les lanières. Alors des lanières, il faut savoir qu'il y a plusieurs qualités de lanières. Ce n'est pas toutes les mêmes lanières. Alors aujourd'hui, à l'époque, aujourd'hui aussi, il y a des lanières de deux couleurs. C'est-à-dire quoi ? Noir dessus, à la Khalé Moshe Missinaï, et beige, la couleur du cuir de l'autre côté. Aujourd'hui, Ben Ishraï rapporte ça, il dit que nous, eux, ils n'ont pas le minac de faire comme ça, mais pour être poter, pour nous acquitter de certains problèmes, qu'est-ce qu'on fait ? On peint les lanières des deux côtés en noir. Alors d'un côté, c'est noir brillant, d'un côté, c'est noir mat. C'est la peau, la même peau, qui a été peinte en noir. Pourquoi ? Qu'est-ce que je gagne par là ? Vous savez que si une lanière, elle a perdu de la couleur, elle a été grattée. Il y a une certaine largeur minimale, ok ? C'est la grandeur d'un grain d'orge, la largeur d'un grain d'orge, ok ? C'est la grandeur, mais c'est pour nous c'est la largeur donc, au niveau des fines. Si j'ai la largeur d'un grain d'orge qui est encore noir dans le tefiline, surtout le plus important c'est l'endroit où on met les tefilines, là au niveau de la tête. Ok, donc ça il faut faire très attention. En général, ça arrive chez eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un petit feutre spécial ou un petit pinceau spécial qui pour pouvoir repeindre si le tefilin il a été éraflé ou effrité. Quand le tefilin il est noir des deux côtés, qu'est-ce que je gagne? C'est que même s'il s'effrite là ou il s'écaille, il restera quand même noir. Donc j'ai pas ce problème de mettre une lanière qui est sous là. Si la lanière elle est sous là au niveau de l'endroit où je mets là ou sur la tête, j'ai pas accompli la mitzvah de tefilin. Là c'est moins grave, ok? Là et sur la tête, donc sur le bras et sur la tête et là c'est très important parce que c'est l'endroit. Même si on n'a pas fait cette tour, c'est bon. Je peux quand par exemple je vois que la personne va faire le chazan il va faire kaddish. Je sais que j'ai pas le droit que quand j'ai fait la bracha tant que j'ai pas terminé de mettre les tefilin de répondre. On verra ça aussi par la suite, Bezrat Hashem. Pas le droit de répondre. Donc, ce qui se passe, je vois qu'il va faire Kaddish, j'ai 30 secondes. Je peux faire Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Lanier Tefilin, je serre, tac, je fais qu'un nœud, qu'un truc, je mets là, je mets la tête, je termine de mettre là, je réponds au Kaddish. Et après, une fois qu'il aura terminé, j'ouvre, je fais cette nœud.
Le nœud qu'on fait, c'est pas important.
C'est important d'après le sod, d'après le secret de certains secrets de la Torah. C'est pas, il y en a qui font 7, il y en a qui font 6, il y en a qui font 8. Voilà, il y en a qui mettent, ça c'est certains munagim, mais c'est après, d'après certaines choses qu'on a reçues de nos maîtres, d'après la Kabbalah, donc certaines choses. Bezrat Hashem, la prochaine fois on verra la suite au niveau des tefilines. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Je pense qu'il y aura encore un troisième cours au niveau de Hachad et Tfilin, et on expliquera d'autres choses au niveau de l'écriture Bezatrem. Bon, Radonai, le Olam, Amen, Amen.